La parole est à vous.
Bon, alors, l'audio n'est pas un livre, moi aussi le site est lié. Et ensuite, il manque le jour, comme le prévoit la réforme des règles de fiscalité exacte, entrée en vigueur au 1er juillet 2022, comme nous le demandons à chaque conseil, la teneur des discussions au cours de la séance et la teneur des discussions au conseil métropolitain concernant notre commune. La teneur des discussions au cours de la séance s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. Certes, un effort a été fait pour ce procès-verbal, je m'en remercie Sabine d'ailleurs, Thorodine, mais cela reste encore à parfaire. Heureusement, le procès-verbal retranscrit sur notre site Montpellier Ensemble reste plus précis concernant notamment nos interventions orales. Merci.
Nous allons passer au vote. Approbation du PV du Conseil municipal du 14 mars, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc l'ordre du jour, vous l'avez eu, donc nous avons en première position les décisions du maire et ensuite la liste des différentes délibérations. Dans les décisions du maire, il y a plusieurs décisions. Donc la première, il y a le transfert au niveau du food truck pizza qui se situe au niveau du Devezou. Il y a un transfert entre deux pizzaiolos. Le premier qui a créé donc ce food truck et qui a demandé le positionnement à Montferrier pour des raisons familiales quitte le village et quitte la région. Donc il y a Monsieur Charton qui va reprendre le food truck pizza et qui le reprendra courant mai. Parce que là, il doit abandonner l'endroit où il travaille, il y a des papiers à mettre en règle avec le gestionnaire de location, etc. Donc M. Charton commencera courant mai au niveau du food truck pizza devant le Devezou, en gardant le même jour et les mêmes horaires. Et ce M. Charton est pizzaiolo depuis 15 ans, donc on peut espérer que les pizzas seront aussi bonnes que celles de M. Doussan. La deuxième décision, c'est la validation d'une maîtrise d'œuvre pour permettre la réhabilitation des façades intérieures du patio de l'école élémentaire pour une somme de 5000 euros. Dans cette somme sont comprises les études et les appels d'offres avec le suivi des travaux, comme je vous l'ai indiqué dans l'ordre du jour. Est-ce que, M. Jean, vous voulez dire trois mots ?
Oui, tout à fait. Pour ce genre de travaux sur un bâtiment ancien comme l'école, on a besoin d'un spécialiste. Et ce ne sont pas en règle générale des architectes, ce sont des maîtres d'œuvre qui travaillent sur ces travaux. Et donc, il va faire l'appel d'offres, il va faire d'abord le descriptif, l'appel d'offres et, comme disait Madame le maire, le suivi du chantier. C'est-à-dire qu'il faut surveiller que les travaux qui vont être prescrits, ça va passer par le décapage de tous les revêtements, rejointoiement notamment. Ce bâtiment a quand même pas mal vieilli. On s'est rendu compte dans la première phase qu'il y avait un certain nombre de fissures et que ces fissures étaient infiltrantes. Il y avait des liaisons entre la maçonnerie et l'étanchéité notamment, qui étaient à revoir. Donc voilà la mission de ce monsieur, de manière à ce que nous ayons pour finir une école parfaite à la rentrée. Voilà. Je pense même que dans son devis, il nous proposera, je crois, pour la même somme, c'est à voir, mais de veiller à l'extérieur également du bâtiment. À voir. Voilà. S'il y a des questions, je ne vais pas répondre.
Pas de questions ? Non ? Alors, la troisième décision, c'est bien entendu la demande de subvention au fonds vert pour la phase 2 de la réhabilitation de l'école élémentaire. Et nous avons demandé, comme l'année dernière, la somme de 300 000 euros. Donc nous avions fait la demande de cette subvention au niveau de la DETR et au niveau donc de la préfecture. Et la préfecture m'a contactée pour me demander de basculer cette demande de subvention sur le fonds vert, puisque depuis janvier, l'État a mis en place ce fonds vert avec 2 millions d'euros. Donc la préfecture préfère utiliser cet argent que l'État vient de débloquer et garder la DETR pour surtout les communes dans les hauts cantons qui en auront certainement besoin aussi au cours de l'année. Donc nous avons fait cette demande de subvention au fonds vert, 300 000 euros, et on va attendre la réponse. Mais a priori, on l'a eu sous la forme de la DETR l'année dernière, donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour l'avoir cette année encore. Nous avons fait une demande de subvention au département, comme l'année dernière, toujours pour la phase 2 de la réhabilitation de l'école, et nous avons demandé 150 000 euros. J'ai reçu ce jour d'ailleurs une lettre du président du département me disant que le dossier était complet et qu'ils avaient bien reçu donc notre demande et que c'était à l'étude. Donc a priori, je pense, dans un mois, on aura une réponse. Et la dernière décision, c'est la participation de la mairie à la réalisation de la fresque sur les murs de l'école maternelle. L'école maternelle, donc, ils ont décidé de monter un projet pédagogique avec les enfants et ils ont fait appel à une dame, Madame Perrine Boyer, qui est peintre.
Exactement.
Peintre. Et donc qui travaille avec toutes les classes de l'école maternelle, et les enfants viennent par le biais de pochoirs qui ont été mis sur les murs de l'école maternelle, viennent remplir les pochoirs avec des tampons de couleur. Voilà. Donc le choix de la fresque a été bien sûr orienté par Madame Boyer. Les enseignants sont ravis de ce projet pédagogique. La mairie a participé à sa manière en repeignant et en nettoyant et en repeignant tous les murs de l'école maternelle pour avoir un fond propre, puisqu'il y avait quand même beaucoup de coulures noires, de moisissures, etc. sur le crépi. Donc ça a été remis au propre, ainsi que les colonnes qui ont été, dont la couleur a été choisie par Madame Boyer pour aller justement avec la fresque. Et voilà, donc là c'est en train d'être fait et ça va se finir.
Ça se finit à la fin de la semaine.
À la fin de la semaine. Donc voilà, donc le projet est en place et donc la mairie évidemment a accompagné l'école dans cette fresque, et c'est avec grand plaisir parce que le peu que j'ai vu de cette fresque, ça a l'air assez sympathique.
C'est très joli.
Je pense que ça va être très joli.
Allez voir.
Je pense que ça va être très très joli et ça va apporter un peu de gaieté à l'école. Donc voilà. Après, nous continuerons peut-être d'autres travaux au sein de l'école maternelle, parce que maintenant qu'on va faire ces murs avec cette jolie fresque, nos poutres en bois bleu jurent un petit peu par rapport au reste, parce que le bleu ne va pas avec l'ensemble. Donc bon, on verra, on fera ça l'année prochaine. On investira peut-être dans les poutres l'année prochaine. Voilà pour les décisions.
D'ailleurs, j'invite tous les élus qui veulent bien venir. Le 25 mai, il y a un vernissage qui est prévu de cette fresque à l'école maternelle. Donc si vous voulez venir voir le rendu de cette fresque, vous êtes les bienvenus.
25 mai, vernissage de la fresque à l'école maternelle. À quelle heure ?
Je crois que c'est 18h30 de mémoire, mais j'enverrai un mail pour reconfirmer.
18h30, le 25 mai, je vais vous le confirmer tout de suite, si je l'ai noté. Non, je
ne
l'ai pas noté. 25 mai,
monsieur. 25 mai, me semble-t-il.
Non, je n'ai pas noté. Monsieur Bord, vous avez... Angola.
Alors, sur le fond, évidemment, nous ne sommes pas opposés, pas contre ces décisions. Néanmoins, nous pensons qu'elles auraient pu faire l'objet à minima d'un point d'information et de discussion lors des commissions, différentes commissions, et lors des derniers conseils municipaux. Je prends comme exemple la participation à la réalisation de la fresque, hein, qui est un très beau projet à la fois pédagogique et esthétique, qui n'a été évoqué ni en commission financière, ni en commission scolaire. Moi, j'ai eu l'information par le biais de l'école, hein, donc je suis ravie qu'il y ait des projets qui se développent dans notre école, je ne vais pas dire le contraire, mais néanmoins, ça aurait été plutôt intéressant d'avoir l'information par un canal plus officiel au sein des commissions. Par ailleurs, j'avais une question pour liée à la réhabilitation de l'école. C'est vrai que nous avons ici deux décisions qui concernent cette réhabilitation. Je voulais savoir quel était le total de subvention que vous souhaitez demander pour cette réhabilitation.
Pour cette phase 2 ?
Oui.
300 plus 150.
C'est tout, il n'y aura pas d'autres demandes de financement.
Non.
Voilà. Nous déplorons qu'une fois de plus, les membres du conseil municipal soient informés a posteriori et nous déplorons le manque de transparence dans la gestion des affaires de la commune. Mais voilà, donc nous aimerions que le conseil municipal ne soit pas une chambre d'enregistrement, mais qu'on puisse bien débattre des projets qui peuvent être très intéressants et à développer au sein de la commune, et nous serions ravis de faire partie de ces débats.
Je vous remercie. On va passer aux délibérations. Alors, au niveau des délibérations, la première délibération concerne donc le taux d'imposition pour l'année 2023. Donc, pour l'année 2023, je vous propose d'appliquer les mêmes taux d'imposition que l'année dernière, c'est-à-dire 44,12% pour le foncier bâti, 79,73% pour le foncier non bâti et 11,95% pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Est-ce que vous avez des questions?
Ça va avec le budget. Moi, j'interviendrai tout à l'heure sur le budget, j'en parlerai.
Ok. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 4 abstentions.
5.
Pardon. 5 abstentions. Adopté donc à la majorité. Le deuxième point, donc, c'est la deuxième délibération concerne le budget primitif 2023. Donc, ce budget primitif, je vais laisser M. Capot vous l'exposer en vous disant au préalable que, bien sûr, il s'équilibre en section de fonctionnement pour 6 517 647,54 et en section d'investissement pour 4 438 951,22 €.
Ok. Alors, donc, le budget 2023, alors, je rappelle juste ce qu'on avait voté au dernier conseil municipal, c'est l'affectation des résultats. Donc, on va retrouver dans fonctionnement donc, le report de l'année dernière pour 2 444 503,54 et en investissement 660 240,68 €. Donc, ça avait fait l'objet du vote au dernier conseil. Le budget de fonctionnement... Vous l'avez sous les yeux, donc en fait, il permet de dégager un résultat de 331 445,02 €, donc ce qui fait à peu près 8% des recettes réelles de fonctionnement. C'est un petit peu juste, ça serait mieux qu'on ait 12 ou 15%, mais bon, c'est déjà pas si mal que ça, compte tenu que c'est quand même un budget extrêmement contraint en fonction de l'augmentation des charges qu'on va voir au fur et à mesure. On a eu une recette des impôts qui a été plus importante que ce qu'on escomptait, donc ce qui a permis effectivement de sortir un résultat qui est quand même pas trop mauvais. À ce résultat, évidemment, on ramène le résultat que je vous ai indiqué tout à l'heure de 2 444 703 et on aura un excédent de fonctionnement global de 2 776 148,56 et cet excédent est viré directement en investissement. On va attaquer par les dépenses. Donc ici, vous avez les dépenses par nature. Donc vous voyez, vous avez les charges à caractère général et elles ont quand même progressé de 142 000 €, ce qui fait quand même plus 16%. Les charges de personnel augmentent légèrement de 1,3%. Bon, les atténuations de produits ne bougent pas. Les opérations d'ordre augmentent un petit peu, mais c'est surtout dû aux amortissements. Les autres charges de gestion courante baissent légèrement et on verra tout à l'heure pourquoi. Les charges financières, ben, j'ai mis non significatif parce qu'on passe de 3 000 à 22 000 euros. Évidemment, on a essentiellement le nouvel emprunt d'un million 5, plus, quoi qu'on ne va pas dire plus décembre, parce qu'en décembre, il y avait que du capital, il y avait très peu d'intérêt. Et on a prévu une provision pour risque de 5 000 euros, parce que chaque année, la trésorerie nous demande de provisionner les sommes qui restent à payer depuis un certain temps. Donc on voit que, en fait, au total, on a une augmentation donc, globale des charges de 5,1% à 182 000 euros. Donc on va voir chaque poste en détail. Mais d'abord, on vous a fait une présentation fonctionnelle, puisque maintenant vous savez qu'on est passé de la M14 à la M57 et que donc on a l'obligation à la fois de présenter par nature avec une présentation fonctionnelle. La présentation fonctionnelle, en fait, on a recherché à l'intérieur de l'ensemble des comptes ce qui concernait les principales affectations, et ceux qui ne rentrent pas dans ces affectations sont dans les services généraux. Donc les écoles, globalement, on a une dépense de 528 310 euros qui regroupe effectivement les charges à caractère général, les salaires et les autres charges qui peuvent y être affectées. Enfants, jeunesse, on est à 8% des dépenses à 280 000 euros. L'action sociale, dedans, on va trouver essentiellement ce qu'on verse au CCAS plus les salaires qui sont affectés au social en général, c'est les personnes... C'est les ATSEM, voilà, c'est les ATSEM qui passent là-dedans. La sécurité, eh ben, c'est effectivement la police, les salaires de la police municipale et les charges afférentes. Fêtes et cérémonies, évidemment, c'est tout ce qui concerne effectivement l'activité de ce chapitre. Le sport ne représente que 1% et la culture 1% et la communication 1% pour un total de 3 601 051. Alors évidemment, ce n'est pas le total des charges réelles puisque dedans, il n'y a pas les amortissements. Les charges à caractère général. Donc on a vu que ces charges qui regroupent essentiellement les fluides, les achats, les assurances et l'entretien du patrimoine. On a un budget donc prévisionnel de 1 027 715. Ça représente 27% des charges de fonctionnement et c'est en augmentation de 142 000 euros. Quand on le regarde de façon fonctionnelle, on voit que ce chapitre, donc pour les écoles, ça représente 35% à 363 500. Essentiellement, dedans, il y a la cantine, et les salaires affectés aux écoles. Enfance jeunesse, 42 000 euros. Action sociale, pardon, je dis une bêtise, pas les salaires, c'est les charges à caractère général. C'est uniquement la cantine et les charges qui découlent, l'électricité, l'eau, etc. L'enfance jeunesse, 42 000 euros, 4%. L'action sociale, 38 000 euros, 4%. La sécurité, 15 600 euros, 2%. Les fêtes et cérémonies, 9% avec 92 000 euros. Le sport, 53 205%. Et la culture, on n'arrive même pas à le lire, c'est 15 000 et quelques à 2%. Et la communication, 35 700, 3%. Pour un total de 1 025 515. Vous avez eu, je vous ai fait parvenir la balance des comptes, la situation. Et malheureusement, on n'a pas pu faire le comparatif avec 2022. Parce qu'il manquait un module qui a été installé depuis. Et donc, l'entreprise n'a pas pu le sortir. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que vous n'avez pas eu le comparatif avec 2022. Ici, vous avez la montée en puissance des charges à caractère général de 2020 à 2023. Et on voit quand même que ça progresse rapidement, et surtout en 2023. Les salaires. Les salaires et charges. Alors, ce chapitre qui récapitule tout l'ensemble des charges, les salaires, les charges sociales et les frais annexes, ça représente 1 572 990, ça augmente que de 20 000 euros et ça représente 42,68 des charges de fonctionnement. Alors pourquoi est-ce que effectivement ça n'augmente pas davantage? Parce que sur le personnel qui nous a quittés en 2022, on a chargé, ça faisait une diminution de 90 000 euros. À ça, on a rajouté, donc, pour un semestre, c'est de la prévision, hein, bien sûr, on a espéré pouvoir trouver un DGS qui serait rentré en milieu d'année, un policier municipal et un chargé de communication. Donc, on a prévu la rémunération chargée pour ces trois personnes, ça représente 53 000 euros. Et sur les salaires, on a pris une hypothèse d'augmentation de 6%. Parce qu'on sait que dans l'année, certainement, il y aura des augmentations de salaire. Donc on a tenu compte de ça. Et malgré tout, vous avez vu, ça augmente d'une somme relativement faible, parce qu'effectivement, c'est compensé par les départs de l'année précédente. Ici, vous avez le tableau de ces charges. Donc vous voyez que sur les charges de personnel titulaire, évidemment, les personnes qui sont parties, c'était des titulaires. Hein, et donc on a une diminution, malgré tout, de 35 000, malgré qu'on ait... quand même, parce que par exemple le DGS, on ne peut pas le prendre en non titulaire, on ne trouvera jamais un DGS qui rentre et qui rentre en non titulaire avec un contrat à durée d'été. Donc lui, on l'a mis en titulaire et on a mis 6% d'augmentation. Et vous voyez que les personnels non titulaires, lui, progressent de 51 000, puisque autant pour le policier municipal que pour chargé de com, évidemment, on pense les embaucher au départ avec un contrat, un
contractuel.
Voilà, exactement. Hein. Bon, les rémunérations des enseignants, ben, c'est les rémunérations qu'on donne aux enseignants pour les gardes. Les charges sociales, c'est les charges sociales globales sur les rémunérations. Et on a en charge diverses l'assurance du personnel en arrêt maladie qui nous coûte quand même 51 000 euros et qui nous permet effectivement d'avoir le remboursement pour le personnel qui est en maladie à partir d'un certain délai. Je ne sais plus si c'est 3 mois, je pense. Voilà. Ici, on a l'évolution de la masse salariale. Donc, ce tableau est intéressant parce que quand on compare 2016-2023, on voit qu'on a vraiment une progression importante de la masse salariale et on voit qu'elle a eu tendance à s'accélérer en 2023. Ensuite, vous avez les interventions de produits. Alors pour ça, chaque année, évidemment, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. Donc on en a pour 739 000 euros. Elles comprennent les attributions de compensation versées à la métropole et la pénalité SRU, c'est-à-dire la pénalité pour manque de logements sociaux. Je ne vais pas m'apesantir parce que je vous en avais parlé au moment du DOB. Ensuite, on trouve les autres charges de gestion courante. Alors le montant des charges de gestion courante est en diminution. Et à 235 000 euros, et parce qu'il regroupe les indemnités des élus, les subventions aux associations et le versement au CCAS. Et donc, en fait, si vous voulez, on a diminué ce chapitre parce que on a transféré les crèches au CCAS, et par contre, on a perdu effectivement l'aide, alors ça on le verra aussi dans les recettes. Hein. De toute façon, le détail est là, ça sera encore plus simple de le voir. Vous voyez que les postes n'ont pratiquement pas bougé et que, en fait, on a au CCAS une augmentation de 38 000 euros puisqu'on a prévu un budget de 60 000 euros. Et par contre, les subventions aux associations, effectivement, on a 62 980 euros de moins. En fait, c'était les 65 000 qu'on donnait à la crèche Les Calins qu'on a transféré au CCAS. Et donc, effectivement, mais c'est ce qui explique un petit peu cette différence.
Pas dans l'intégralité, puisqu'il y a une partie qui va directement à la crèche, on est d'accord.
Ce qui s'est passé, c'est que la crèche va encaisser l'aide de la CAF, et nous, on complète à travers le CCAS. Hein, voilà. Hein, et c'est valable pour la crèche Les Calins et pour la crèche de Trois-Soleils. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que quand vous voyez l'évolution, effectivement, ça baisse en 2023, mais en fait, la charge ne baisse pas, au contraire, elle augmente. Hein. Je m'arrête là pour les dépenses. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des dépenses ? Je continue sur les recettes. Je continue sur les recettes, alors. Alors, ici, vous avez le tableau récapitulatif des recettes avec le comparatif 2022-2023, le pourcentage que représente chaque poste dans les dépenses et la variation avec le pourcentage en variation. Donc, on voit que les... Alors, ça, ce sont des recettes. Hein. Donc, les atténuations de charges... L'année dernière, on avait eu 43 000 euros. Moi, prudemment, j'ai prévu 30 000 euros parce qu'on ne peut pas savoir le personnel qui sera en arrêt maladie. Il y a des gens qui reprennent, etc. Donc, on a prévu ce qu'on avait les années précédentes. Les opérations, donc, ça, c'est la neutralisation des attributions de compensation, investissement. Donc, ça ne bouge pas. Hein, c'est chaque année la même chose. Les produits et services augmentent de 35 000 euros. Ils représentent 276 500 euros. Les impôts et taxes augmentent de 6% à 3 503 092. Je vous donnerai le détail. Pour l'instant, je vous fais juste une lecture. Les dotations et participations baissent. Pourquoi ? Parce que c'est la CAF qui disparaît, hein, l'aide de la CAF. Les atténuations, les autres produits, c'est tout simplement les loyers à 80 000 euros. C'est ce qu'on encaisse chaque année. Il n'y a pas de produits exceptionnels et pas de reprise sur provision, puisque ça, c'était des choses qui étaient exceptionnelles et qui ont peu de chances de se reproduire cette année. Ici, vous avez une présentation fonctionnelle. Donc, vous voyez que la principale ressource de la commune, c'est les impôts et taxes, à 3 503 000. Ensuite, on a les recettes des écoles, à 190 000. Donc ça, c'est à la fois la cantine, la garderie et éventuellement s'il y a par exemple la classe de découvert, par exemple. Hein, voilà. Les services généraux, ben, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories, 120 000 euros. Dotation et participation, 103 000 euros. Les enfants jeunesse, 97 000 euros. fêtes et cérémonies, 20 000 euros. Ça, c'est les recettes qu'on a. Essentiellement, c'est le repas de Noël, hein, c'est surtout ça. Le méchoui, voilà, ces petites choses-là. Et la culture, 1500 euros, c'est les abonnements de la bibliothèque. Alors, on voit ici en détail ce que représentent les produits et services. Donc, on a les concessions cimetières. Donc, on a mis à peu près le même chiffre que l'année dernière. Les autres recettes augmentent. Donc, c'est les recettes services enfants-jeunesse et festivités qui rentrent là-dedans. Donc, 53 000, on passe à 75 000. Pourquoi ? Parce que les activités au service jeunesse ont repris, hein, c'est-à-dire au fur et à mesure, eh ben, ça augmente, hein, puisque aujourd'hui, on est sorti du Covid, donc il y a plus d'activités, donc évidemment, un peu plus de recettes. Bon, les services à caractère culturel, je vous expliquais. Et les redevances périscolaires, 190 000 euros, ben, c'est la cantine et la garderie et la classe de découverte. Et là, on a prévu 35 000 euros de plus. L'évolution des produits, eh bien, on voit bien la crise Covid là, hein, 2020-2021, et puis hop, c'est reparti en 2022 et ça augmente un petit peu en 2023. Les impôts et taxes. Alors les impôts et taxes, ce chapitre s'élève à 3 503 092, soit 86% des recettes réelles de fonctionnement, en augmentation de 203 000. Alors, on a pu bénéficier de la progression, en fait, de l'augmentation des bases d'imposition sur le foncier, qui a été de 7,1%, et on a eu effectivement des nouvelles constructions qui sont venues se rajouter. Et donc, du coup, on a une recette quand même qui est en augmentation de 200 000 euros, ce qui nous permet, quand on regarde le résultat sur les 300 000, c'est 200 000 qui viennent de là, hein, quand même. Donc, on est quand même extrêmement dépendant quand même des impôts et taxes. Hein. Ici, vous avez le détail. Donc, les taxes foncières, effectivement, qui ont augmenté de 135 000 euros. Bon, l'attribution de compensation, bon, ça, c'était exceptionnel. La dotation de solidarité communautaire, l'année dernière, on avait perçu 5 278 euros. En fait, c'est un fonds de la métropole de 1 million d'euros qui est réparti entre les communes. Et nous, on a une petite somme parce que, bon, ils estiment qu'on n'en a pas besoin. Le fonds de péréquation des taxes communales, donc on a prévu 46 000 euros, et bon, j'ai mis 40 000 euros prudemment. Hein. La taxe finale sur l'électricité, j'ai remis le budget de l'année dernière, 120 000 euros. J'espère qu'on aura un petit peu plus. Bon, pourquoi ? Parce que vous vous souvenez qu'on avait augmenté sensiblement cette taxe, hein, puisqu'on s'était, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que en fait, on l'avait anticipé d'un an, mais qu'après, elle passait automatiquement au taux maximum. Donc on l'avait anticipé. L'année dernière, donc, parce que ça rentre très doucement ces choses-là, parce que c'est chaque fournisseur d'énergie qui nous le verse. Alors il y a une quantité incroyable de sommes qui rentrent. Et là maintenant, c'est pris en charge par l'État. Donc en fait, ça sera simplifié. Et je pense que là, ça sera versé avec beaucoup plus de régularité. Normalement, j'ai prévu 120 000, mais j'espère qu'on aura un petit peu plus, compte tenu que le tarif de l'électricité a quand même fortement augmenté et que c'est un pourcentage de cette consommation. Bon, la taxe locale, bon, ça, j'en parle même pas. Et la taxe additionnelle sur les droits de mutation, l'année dernière, on avait eu beaucoup de... Enfin, on touche cette somme-là sur toutes les ventes, les reventes de biens, et essentiellement les habitations. Hein. Et donc, l'année dernière, on avait touché 159 000, ce qui était beaucoup plus que les années précédentes. Donc, comme on a vu moins de DIA passer, on a préféré mettre une somme inférieure, donc on a mis 120 000 euros par prudence. Donc on voit quand même que le détail des impôts et taxes est ça nous donne 200 000 euros de plus quand même. Hein. On a ici ce tableau qui vous permet de voir entre 2010 et 2023 l'augmentation, et on voit que ça augmente régulièrement, 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 et que quand même, entre 2022 et 2023, ça a quand même sensiblement augmenté, puisqu'il y a eu des revalorisations importantes des bases d'imposition. Les dotations et participations, alors là par contre, ça baisse, mais vous allez voir pourquoi. Bon, la DGF, qui normalement, on avait supposé qu'elle allait s'éteindre, cette année, compte tenu effectivement de l'inflation galopante, l'État a forcé sur le montant global de la dotation forfaitaire, et nous, on a eu une augmentation de 5 000 euros. Mais cette augmentation, elle va être, à mon avis, que cette année, parce qu'on pense qu'à partir de l'année prochaine, on va la perdre. La DSR, alors, j'ai reçu tout à fait récemment le lien sur la DGFiP pour aller consulter ces montants-là. Donc, cette dotation forfaitaire, je l'avais vue parce qu'à la présentation De la loi de finances, on nous l'avait donné. Hein, il y avait le cabinet Kaufmann l'avait et nous l'avait donné. Par contre, la DSR, je n'avais aucune information. Et quand j'ai pu aller le pour consulter, mais déjà tout était fini, je n'ai pas pu revenir dessus. En fait, on va toucher 15 000 euros de plus. Donc là, la DSR, on devrait avoir 55 000 euros cette année. Le FCTVA a baissé, puisque ça, c'est le fonds de compensation TVA sur certains frais du fonctionnement. Et cette année, alors étrangement, on faisait une déclaration et on le touchait en fin d'année. Et là, maintenant, ils le prennent directement sur le compte administratif et il nous a été payé en janvier. Donc, on connaît les sommes exactes. Donc, cette année, on a eu 6 240 euros. Donc, on a eu 4 500 euros de moins que l'année dernière. Et sur les autres, bon, ça, c'est des aides qu'on avait perçues pour les élections. Donc, effectivement, pas d'élection, pas d'aide. Et on voit là, effectivement, la CAF, on avait 96 000 euros l'année dernière. On a prévu 42 000, 55 000 euros de moins. Donc, la baisse de la dotation et la participation, elle est là. Et c'est pour ça qu'on avait retrouvé moins dans les dépenses aussi. Je continue. Là, ici, donc, vous avez une évolution. Je vous ai fait ce tableau parce qu'il était intéressant, surtout par rapport à la DGF. Et on voit qu'en 2016, on avait 176 000 euros de DGF. On n'en a plus que 57 600. Et que l'année prochaine, normalement, 2024 ou 2025, on devrait être à zéro. Par contre, effectivement, pour la DSR, ce tableau est fou, puisque, en fait, on va être presque à égalité avec la DGF. Vous voyez, le marron, il devrait remonter. Donc, par contre, la DSR vous est très favorable cette année. Bon, les autres produits, c'est les loyers, hein, donc 80 000 euros. Donc, c'est tout l'ensemble de ce qu'on loue, hein, c'est-à-dire les appartements à l'espace Lucien Niquel, les appartements à la Poste, aux Grèce, etc. Donc, tout ça, ça représente à peu près 80 000 euros dans l'année, y compris un petit peu de location du Dévézou, certains loyers, par exemple, qu'on reçoit du lycée pour des occupations, etc. Mais chaque année, c'est ça, hein, 80 000 euros. Je continue au budget d'investissement. Oui, je suis rapide hein, cette année. Hein. Alors, là, je vous ai fait un tableau synoptique donc, de l'ensemble recettes dépenses. Donc, je vais vous le lister. Donc, en recette, donc, eh bien, on a le virement de la section de fonctionnement, 2 776 148,56. Le report bénéficiaire de l'année dernière en investissement de 660 240,68. Les opérations d'ordre qui représentent les investissements et la neutralisation des ACI pour 140 000 euros. La dotation à fonds divers, c'est la taxe d'aménagement et le fonds de compensation de la TVA. Les subventions d'investissement, 732 000. Alors vous verrez, je vous ai fait un petit tableau à la fin pour vous le présenter, hein, les subventions pour investissement. Donc ça nous fait un total de recettes de 4 438 951,22. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on retrouve la neutralisation des ACI, donc on les a à la fois en recettes et en dépenses, donc ça c'est neutre. Hein. On va rembourser 98 002 euros d'emprunt. Alors vous savez que normalement c'est 70, vous verrez que je vous donnerai le tableau, c'est un peu plus de 70 000 euros, mais vient se rajouter l'échéance de décembre. Hein. C'est pour ça qu'on est à 98 000 euros. Les immobilisations, donc après je vais vous les détailler. Donc les incorporels 35 000, les corporels 625 000, les immobilisations en cours 1 345 000 euros. Et les subventions versées à la métropole 77 141 euros. La différence de tout ça avec les totales des recettes d'investissement nous donne un montant non affecté de 2 220 322, c'est-à-dire que soit eh bien, on aura des dépenses complémentaires dans le courant de l'année et à ce moment-là, il faudra faire des libérations modificatives, soit si on ne les utilise pas, ça sera reporté sur l'année 2024. Je vais vous donner un petit peu, je vais vous lister un petit peu les investissements. Alors, on a fait ici juste un condensé, et après on va vous le détailler. Donc sur les écoles jeunesse et sport, on a prévu 140 000 euros. Les bâtiments publics et espaces publics, 742 000 euros. La transition énergétique, 1 010 000 euros. La sécurité, 58 000 euros, et en divers, 56 000 euros. Donc on a prévu 2,6 millions, ce qui est quand même un chiffre quand même important. Je ne crois pas qu'on ait atteint un chiffre aussi important ces dernières années. dans la transition énergétique, tiens, j'avais fait disparaître, c'est mon début, bon, c'est pas grave. Alors, dans la transition énergétique, donc, on a les panneaux photovoltaïques pour 120 000 euros, les bornes de rechargement 20 000 euros, et on a considéré que la rénovation énergétique de l'école et de l'école élémentaire, ça rentrait dans la transition énergétique, et donc c'est pour ça qu'on est à 1 million 10 000 euros. Jeunesse et sport, donc, on a des logiciels hein, qu'il faut qu'on rachète pour avoir d'ailleurs une subvention de l'État. On a l'étanchéité des murs de l'école élémentaire, ça c'est une dépense nouvelle qui semblerait être quand même un petit peu inférieure. Hein, oui. Mais bon, on était parti là-dessus. Et ensuite, on avait prévu de travaux dans les stades pour 15 000 euros. Ensuite, on a les bâtiments publics, espaces publics. Donc, on avait l'aménagement de la cour de la bibliothèque, 20 000, on a prévu 20 000 euros. On a prévu 25 000 euros sur les chemins parcours sportifs. On a 100 000 euros sur les tombes et cavures. Alors ça, c'est engagé. Hein. Ensuite, on avait pensé électrifier le portail du cimetière pour qu'on puisse le fermer la nuit. Ça, on parle de l'ancien cimetière, 10 000 euros. On a fait faire des devis pour refaire un petit peu des travaux ici au Devesou. Ça en a bien besoin. On a un budget de 30 000 euros. On a pensé mettre un peu des bancs, un peu de signalisation aussi dans le village pour 20 000 euros. On a une étude en ce moment pour installer des jeux aux aiguillères, mais ça c'est toi qui t'en occupe. On a prévu un budget de 100 000 euros. On a prévu de mettre des panneaux d'information, de les changer. Vous savez, c'est celui qui est en face de la pharmacie. On a prévu 32 000 euros. Divers, bon, 20 000 euros, ça c'est pour je sais plus ce qu'on a mis dedans, ça n'a pas d'importance. Salle de musique, on a prévu donc 305, enfin on n'a pas prévu, c'est le solde des travaux de la salle de musique, c'est 305 000 euros. On a des devis aussi pour changer les sanitaires de l'école élémentaire, 50 000 euros. Et on a des frais d'études qu'on a prévu pour effectivement les projets en cours. Donc on a mis un budget de 30 000 euros. Comme ça, si on a besoin de faire appel à des cabinets, ben, on a 30 000 euros de prévu. Sur la sécurité, ben c'est les caméras et raccordements de la FRIP, donc on a 58 000 euros. Et dans l'hiver, alors c'est un peu tout, hein, il y a du petit outillage pour le technique pour 5 000 euros. On a prévu éventuellement de changer un véhicule pour 35 000 euros. On a du matériel informatique, pour chaque année on achète un ordinateur, un truc de 3 000 euros. Bon, ça, les terminaux de paiement, c'est pour que les gens puissent venir payer pour la régie, pour éviter les espèces, pour qu'ils puissent venir payer avec des cartes bancaires. Donc on les a commandés, il faut les finir de les installer. Et on a prévu de changer aussi les photocopieurs qui sont venus en fin de maintenance, donc maintenant qu'ils ne sont plus garantis. Et 4 photocopieurs, ça fait 11 000 euros. Alors voilà, c'est ce petit tableau que je vous ai fait. Je pense qu'il est intéressant parce qu'il vous permet de voir un petit peu les subventions qu'on a encaissées en 2023, elles se rapportent toutes des investissements qui ont été faits ou commencés en 2022. Donc, padel et cage de tennis, donc on a dépensé 110 000 euros et on a 80 000 euros du département. Il reste à charge 30 000 euros, et ces 30 000 euros, même, ce n'est pas tout à fait exact, puisque ce sont des montants TTC, et que en N plus 2, on récupère la TVA. La rénovation énergétique de l'école, donc cette année, en 2022, elle nous a coûté 760 000 euros. On a perçu 80 000 euros du département, enfin, oui, ça va rentrer maintenant, hein, et 300 000 euros de l'État, donc il reste à charge 380 000 euros. Et la salle de musique nous coûte 397 000 euros. On a 120 000 euros de la métropole, 80 000 euros du département, et il y a une erreur.
Oui.
Il y a une erreur, parce que ça ne fait pas 317 000 euros. Je le vois maintenant.
187 000.
Ouais, ça fait la moitié, à peu près. Hein. Voilà, c'est 50%. Vous voyez pourquoi, même quand on relit et relit, on relit.
La métropole
n'a
déjà pas
donné
150 000 euros.
Peu importe.
Alors, le tableau des emprunts.
Juste une petite question sur la slide précédente. Je ne sais pas si tu peux y revenir.
Attends, oh là là, j'ai fait une bêtise, je crois. Alors là, ça c'est la cata. Ah, ça y est, ah, c'est revenu. Voilà. Excuse-moi.
Sur les subventions, on est d'accord, où sont les subventions acquises? Donc, par exemple, pour la rénovation phase 2,
c'est les
732 elles ne sont pas comptabilisées dans
Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Jamais. On ne comptabilise que les subventions acquises. Donc, celles-là, elles ont été acquises, validées et demandées. Donc, on les attend. Peut-être qu'il y en a déjà, peut-être qu'ils sont rentrés, si ça se trouve. Voilà, oui, mais. Hein, voilà. Hein, par exemple, pour la rénovation de énergétique de la phase 2, donc, on a redemandé de nouveau 150 000 et 300 000. Hein, mais ils ne sont pas accordés pour l'instant.
Il apparaîtra au budget 2024.
Voilà, absolument. Voilà, là, je vous ai fait un petit tableau pour des emprunts. Donc, voilà en fait comment ça se situe. Donc, il nous reste le bâtiment de la place des Grèzes. C'est là où il y a Alim, hein, et les appartements. Donc, il avait été fait en 2010. Il se termine en 2031. Le capital emprunté, c'était 40 000 euros. Il reste 8 700 euros à rembourser. Donc, par contre, celui de la salle culturelle du Dévézou, on avait fait 450 000 euros. Il se termine. La dernière échéance, c'était janvier 2024. Et l'emprunt de 1,5 million, effectivement, lui, évidemment,
il court.
Alors, donc, l'annuité de remboursement, c'est intérêt compris. Hein. Voilà. J'ai fini. J'ai été rapide, hein.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Je voulais juste faire des commentaires.
Des questions, non. Moi, je... Ouais,
allez. On t'écoute.
Bon, ce sera rapide. Hein.
Prends le micro, Michel.
Ce sera rapide parce qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire que ce que vous avez discuté avec Jean-Marie en commission des finances, donc je ne vais pas répéter tout ça. Ce n'est que la seule chose qu'on vous a dit en public, c'est que pour nous, ce budget est vraiment qu'un budget de transition. C'est-à-dire qu'on s'en sort bien cette année parce qu'on a 7% d'augmentation des bases d'imposition. D'accord ? Et parce qu'il n'y a pas eu de baisse de la dotation globale de fonctionnement. Coup de bol. Hein ? Mais on n'aura pas cette possibilité tous les ans. Et certainement pas l'an prochain.
Et la loi SRU qui va augmenter aussi. La pénalité SRU. Hein.
Alors, il est certain qu'on va avoir une augmentation de la pénalité donc, pour non-respect des quotas. Et personne ne peut dire à ce jour qu'elle va en être le montant. Il peut aller du simple à 5 fois plus. Donc, par rapport à la base, je veux dire.
Oui.
D'accord ? Donc, contrairement à ce que pensent certains, nous voyons bien que les économies à faire sur le fonctionnement sont ridicules par rapport à l'augmentation des dépenses. Et qu'il faut donc réfléchir en termes de recettes. Or, les seules vraies recettes, tu viens de le démontrer parfaitement, que nous avons et qui sont les plus importantes, proviennent des impôts. Alors, même si le mode de calcul de ces impôts génère des inégalités entre les citoyens, puisqu'ils ne sont pas basés sur les salaires que reçoivent les gens, hein, nous n'avons pas d'autre possibilité que de les augmenter. Ça veut dire qu'il faut réfléchir le pourcentage d'augmentation en raisonnant sur le long terme pour ne pas avoir à le faire tous les ans ou tous les deux ans. Donc c'est un choix politique. Il y a trois options qui s'offrent à nous. La première option, qui est pour nous complètement irresponsable, c'est de dire on ne fait rien pendant ce mandat, on repousse tout pour que ce soit l'équipe suivante qui se charge de l'augmentation des impôts. Ou bien on le fait au prochain budget, ou on le fait au suivant, c'est la veille des nouvelles élections. Bah, nous, on sait ce qu'on ferait, mais là, maintenant, c'est à vous de choisir.
Alors oui, nous avions fait la majeure partie des remarques lors du précédent conseil municipal. On avait une remarque sur le tableau des indemnités des élus, puis après je partirai sur le budget. Il n'apparaît pas là et il était indiqué dans le ROB le mois dernier, mais c'était pour 2021. Alors je ne sais pas si c'était une erreur.
C'était une erreur parce que c'était bien 2022. Hein.
Ok, dans le document c'est bien indiqué 2021. Du coup,
il y a peut-être une erreur de plus, mais c'était 2022. Hein.
Ok. Donc pour ce budget, donc sur la section fonctionnement, évidemment nous notons la très forte et inquiétante augmentation des charges à caractère général, hein, une progression de près de 26%, une augmentation des recettes qui va effectivement limiter la casse, les charges de personnel et frais divers qui augmentent malgré les postes vacants, mais Bernard, tu as bien expliqué la situation RH de la commune. Et de nombreux postes qui augmentent, les prestations de services, plus 34 294 euros, l'électricité, plus 71 696 euros, le carburant, plus 1208 euros, les fournitures de petits équipements, plus 2609 euros, l'entretien des bâtiments publics, plus 5539, etc. etc., etc. Nous notons sur la présentation fonctionnelle du budget qui est intéressante, hein, mais qui ne montre néanmoins pas les glissements d'une année à l'autre, et tu as expliqué tout à l'heure les problématiques pour faire apparaître au moins sur les trois années. Nous notons que la communication a un budget supérieur à la jeunesse et l'enfance, donc pour nous, ça, c'est pas surtout si on rajoute le recrutement d'un chargé de communication, ça nous paraît un peu déséquilibré. Nous notons également sur fêtes et cérémonies, hein, une augmentation de ce budget, alors que finalement, avec cette augmentation de postes, on obère le développement de projets à développer à Montferrier. Donc, nous réitérons notre remarque, hein, l'animation du village doit être faite par les associations. Et peut-être qu'un budget tel pourrait être réservé à des actions structurantes de la commune. Nous avons discuté notamment en commission scolaire de l'aménagement de la place des Aiguillères, et le budget de 100 000 euros pour cet aménagement nous paraît insuffisant, hein, par rapport aux devis étudiés. Mais ça, c'est un exemple. Parmi tant d'autres. Sur l'analyse globale, nous regrettons également que nous n'ayons pas de présentation de projets de manière pluriannuelle. Donc là, c'est vrai qu'il y a un effort, mais on voit le décalage évidemment entre les dépenses et puis les rentrées sur la partie investissement. Mais on aurait souhaité avoir une vision pluriannuelle des projets à développer. Nous notons également qu'il n'y a pas d'investissement notable et que le budget est contraint, que la pénalité SRU va être évidemment une problématique importante l'année prochaine et les années à venir, et que finalement l'emprunt qui a été fait est utilisé pour combler le courant. Donc nous revenons à la même remarque qui a été faite par Michel, c'est quid des rentrées pour équilibrer un budget dans les années à venir. Sur la partie investissement et pluriannualité, c'est vrai qu'on aurait aimé que soit abordé l'aspect social en lien avec cette pénalité SRU et l'anticipation. À la fois sur les rentrées, mais également sur cette réponse à un besoin de construction de logements sociaux dans notre commune. Et enfin, un dernier point, c'est la question de la conservation de la DGF. Hein. On a une augmentation de 5 000 euros cette année, mais tu l'as dit tout à l'heure, quid de l'année prochaine. Voilà. Donc c'est un budget contraint avec peu de marge. Et nous allons nous positionner en nous abstenant sur le vote de ce budget.
Oui, alors je regarde là, j'ai la présentation du DOB, j'ai la diapo sous les yeux, indemnité versée aux élus, il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'année. Je l'ai sous les yeux, c'est ce que j'ai représenté, c'est ce que j'ai présenté.
C'est le document ROB 2022 PDF.
Ah, dans le ROB, peut-être. Alors, ah, d'accord.
À la page.
D'accord, ok. Ok, c'est peut-être dans le ROB. Bon, voilà, après, bien sûr qu'on a un budget contraire, mais enfin, moi je regarde un petit peu les budgets de toutes les communes aux alentours, c'est exactement la même situation que nous. Exactement. Tout le monde a ce genre de problème, c'est-à-dire que l'inflation, eh bien, elle est là, elle est galopante. Parce que quand on regarde les charges à caractère général, elles augmentent de 16%. Mais qu'est-ce que c'est qui augmente dedans? C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est le gaz, c'est la restauration scolaire. Après, les autres chapitres, ils augmentent de 6%. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut pas, il faut bien pouvoir éclairer. Et en plus, on a fait beaucoup d'économies, on met des LED partout, on fait tout ce qu'on peut, on va installer des panneaux photovoltaïques. Je veux dire, les efforts, on les fait. Hein.
Moi, je voudrais juste rebondir sur les logements sociaux, là, sur la pénalité SRU. Vous dites qu'on ne fait rien pour les logements sociaux. La problématique qu'on a, et vous le savez très bien depuis le départ, nous n'avons pas de terrain communaux pour construire des logements sociaux. Il faut du terrain pour construire des logements sociaux. Donc nous n'avons pas de terrain communaux. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'attendre l'arrivée du PLUI pour pouvoir faire des modifications sur des terrains communaux que nous avons, qui aujourd'hui sont dans des zones où on ne peut pas construire de logements. Les seuls terrains communaux qu'on a aujourd'hui sont les terrains qui se situent là devant des bisous. Ce ne sont que les terrains qui appartiennent à la commune, qui sont des terrains qui sont réservés culturels au sport. Donc sur ces terrains, aujourd'hui, nous ne pouvons pas construire. Donc on a envie de construire des logements sociaux. On va construire des logements sociaux. On a demandé une modification au niveau du PLUI de cette zone. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire sans logements sociaux quelque part. Donc on est contraint, et cette pénalité, là j'ai été obligée de faire un petit dossier au niveau du préfet pour lui expliquer la situation de la commune, mais elle est indépendante de notre volonté. On avait la possibilité d'avoir 50 logements sociaux en face de Caudalie, ça a été refusé par la métropole. Le hameau de Bayarguet, c'est en stand-by parce que ça coûte trop cher pour la métropole, la réhabilitation, avec des contraintes patrimoniales très importantes. Après, on a des logements sociaux pour 2024, si je ne me trompe pas, pour 2024, on va sortir 15 logements sociaux. Chaque fois qu'on peut demander des logements sociaux, on le fait. Le projet qui se fait boulevard de la Maison, là, le Clos Olivia, on a des logements sociaux. Le programme qui va se faire chemin de Versailles, il y a des logements sociaux. Chaque fois qu'on peut les demander, on le fait. Mais après, on a des contraintes, on ne peut pas faire, on peut pas faire plus que ce qu'on fait. Donc, on n'a pas la ZAC du Castellet comme à Clapier. On n'a pas ce grand terrain sur lequel on peut construire beaucoup de logements. On l'a pas, on n'a pas cette chance-là. Donc, on fait avec ce qu'on a. C'est pour ça que cette pénalité, on l'a. Je l'ai défendue bec et ongle auprès de M. le préfet en lui expliquant la situation de la commune et la volonté de la commune de construire des logements. Mais on est obligé d'attendre l'arrivée du PLUI où on pourra modifier certaines zones et où on pourra construire. Alors, il est évident, il est évident que sur ces zones-là, on ne fera pas 400 logements sociaux.
Non, mais c'est une trajectoire aussi qu'on veut. C'est pas nécessairement sortir de terre 400 logements, mais il y a moyen de préempter, il y a moyen au moment des divisions parcellaires de le faire au compte-goutte, mais en tout cas de montrer une démarche attentive d'engagement dans les...
Mais on le fait. On le fait. Pouvez-vous nous démontrer qu'on ne le fait pas?
Le fait. Moi, je pense que vous ne l'avez pas fait, notamment dans le village. Dans le village, il y a eu... C'est présenté des logements que vous auriez pu acquérir afin de mettre en place des logements sociaux, ce qui aurait donné l'intention.
C'est-à-dire, monsieur Bord, donnez des exemples, s'il vous plaît.
Le bar, déjà.
Pardon ?
Le bar. L'ancien bar. Par exemple, je pense qu'il y a eu d'autres logements qui se sont libérés.
L'ancien bar, c'est vendu d'abord sous l'ancien mandat.
Non. Vous étiez allé le visiter.
Je vous rappelle que j'étais dans l'ancien mandat aussi.
Non, mais c'est l'ami. Mais je pense qu'il y aurait eu d'autres options, disons, d'achat, disons, des logements. Je vois par exemple Louis Desbaris, qui dernièrement s'est vendu, il se fait un petit logement de 50 mètres carrés. C'est un logement social.
Louis
Desbaris ? Oui. Louis Desbaris, au début de la rue de Lurès.
Au début, côté.
Il y avait un garage. Il se construit une petite maison. Par exemple, c'est un exemple.
Je pense que
c'est l'intention.
Mais on a l'intention. Enfin, faut pas nous accuser de ne pas avoir l'intention de faire des logements sociaux.
On n'accuse personne.
Vous dites quand même que il n'y a pas de visibilité sur les logements sociaux. Donc, on a une visibilité, on a envie de le faire, on le fera, et on fera tout ce qu'on pourra. Après, préempter des terrains. c'est pas facile, c'est pas toujours facile de préempter des terrains, c'est pas toujours facile. Les propriétaires, à un moment donné, n'ont pas envie de vendre aussi. Une préemption, c'est pas parce que la mairie décide de préempter que le propriétaire est obligé de vendre. On l'a déjà fait en début de mandat, quand on a voulu préempter le terrain au bord du Lez pour en faire quelque chose d'intéressant, le propriétaire a refusé. On ne peut pas l'obliger à vendre. Donc une préemption n'est pas une obligation d'achat.
Donc Bernard a montré que le budget était quand même très contraint. Et si tu regardes les prix des logements aujourd'hui, si on dépense 3 millions pour avoir 10 logements sociaux, ça ne va pas résoudre de problème. Voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins que ça. Comme j'ai la parole, je voudrais juste rebondir quand même sur les remarques de Céline, les contre-vérités, pour être gentil. Un budget où les investissements ne sont pas notables. Donc 2 millions, ce n'est pas notable, je le note. Et un budget où le prêt, donc de 1,5 million, sert à financer le tout venant, c'est faux. Voilà. On peut le démontrer à tout plein de vues. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on ait des débats en conseil municipal qui soient honnêtes. Voilà.
Je voulais juste dire sur la préemption de terrain de villas qui se vendent. Tout peut changer à partir du moment où on aura les montants des pénalités qui nous seront attribuées. Si nous avons vraiment de fortes pénalités, ça vaudra vraiment le coup d'acheter, puisqu'on sait que la pénalité nous est déduite.
Bien sûr. Hein,
le montant qu'on a investi nous est déduit de la pénalité. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup. Maintenant, c'est vrai que quand on voit certaines ventes, il y a des choses qui sont impossibles, quoi. On a vu des prix de vente de maisons, de terrains qui sont incroyables. Notamment, j'ai appris que l'an dernier, l'immobilier sur Montferrier a augmenté de 20% en un an. Donc ça fait des sommes qui sont vachement importantes. Mais voyons la pénalité. J'espère qu'on n'en aura pas besoin, parce que ça veut dire qu'on aura une pénalité drôlement élevée.
Il y a aussi un aspect des choses qu'il faut voir, c'est que les bailleurs sociaux, un appartement de 50 mètres carrés, ça ne les intéresse pas du tout. Donc on ne trouvera jamais de bailleur social qui prendra un appartement. Et on ne va pas nous se mettre à gérer des logements sociaux. Donc le problème, il faut qu'on trouve une unité suffisamment importante pour faire 3, 4, 5 logements. Et à ce moment-là, on trouvera des bailleurs sociaux qui accepteront de le prendre. Mais sinon, ça ne marchera pas. On ne peut pas acheter des petits appartements par rapport comme ça pour en faire des logements sociaux. Bon, on va passer au vote. Tu peux y aller sinon.
Alors, on va passer au vote. Donc, vas-y,
on va le dire en chapitre. Bon. Alors, je reprends. Donc, si vous en êtes d'accord, je liste les chapitres et on fait un vote global, recettes, dépenses. Vous êtes d'accord ? Ok, ça simplifiera les choses. Donc je les liste. Hein. Charges à caractère général, 1 025 515 €. Charges de personnel et frais divers, 1 572 990 €. Atténuation des produits, 739 170 €. Virement à la section d'investissement, 2 776 148,56 €. Opération d'ordre, 140 447,98 €. Autres charges de gestion courante, 235 654 €. Charges financières, 22 722 €. Et dotation en provision, 5 000 €. Total des charges de fonctionnement, 6 517 647,54 €. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Je passe aux produits de fonctionnement. Résultat de fonctionnement reporté, 2 444 703,54. Atténuation de charges, 30 000 €. Opération d'ordre, 37 506 €. Produits des services, 276 500 €. Impôts et taxes, 3 503 092 €. Dotation et participation, 145 840 €. Autres produits de gestion courante, 80 000 €. Produits financiers, 6 €. Total des produits de fonctionnement, 6 517 647,54 €. Même vote.
Même vote.
Même vote. Je passe au budget d'investissement. Total des recettes d'investissement, solde d'exécution de la section d'investissement, 660 240,68 €. Virement de la section de fonctionnement, 2 776 148,56 €. Opération d'ordre, 140 447,98 €. Dotation et fonds divers, 130 114 €. Subvention d'investissement, 732 000 €. Total des recettes d'investissement, 4 438 951,22 €. Même vote. Même vote. Je passe aux dépenses d'investissement. Opération d'ordre, 37 506 €. Emprunt et dettes diverses, 98 002 €. Concession et droits similaires, 35 000 €. Subvention d'équipement versée, 77 141 €. Immobilisation corporelle, 626 000 €. Immobilisation en cours, 3 565 302,22 €. Total des dépenses d'investissement, 4 438 951,22 €. Même vote.
Même vote.
Même vote.
Je vous remercie. On va passer au point la délibération numéro 3, donc l'attribution des subventions. Et je vais laisser la parole à Madame Labuffol.
Donc, comme vous l'a expliqué Bernard, donc, nous avons réduit le montant des subventions globales. Puisque la partie crèche a été passée sur le budget du CCAS. Donc l'année passée, nous avions un montant global de 105 000 euros qui passe cette année à 34 000 euros. Donc le delta, 71 000 euros, fait la différence. Bien sûr, 71 000 euros, c'est la somme allouée et non la somme payée. Hein. Il reste toujours une marge au cas où pour les subventions exceptionnelles. Donc, le vote des subventions se fait nominativement pour chaque association. Donc, je vais vous les lister. Donc, l'ACL, 3 200 €. L'association de parents d'élèves, 800 €. Ados et enfants de Montferrier, 1 000 €. Anciens combattants, 110 €. ACLUC, 2 000 €. Chasse, 600 €. Comité de jumelage, ils n'ont rien demandé cette année. Ils attendent de voir s'il y aura le voyage en Suisse, comme prévu, et dans ce cas-là, ils demanderont une subvention exceptionnelle. Le SCM, le foot, 7 000 €. La Lire, 3 500 €. Les Amis de la Chapelle de Bayarguet ne demandent rien encore cette année, parce qu'ils ont eu moins d'activités et donc...